Inge Krauss ne savait pas vraiment son vrai nom. En fin de compte, à l'âge de 4 ans, sous la pluie de l'artillerie russe, dans sa ville prussienne de Königsberg, elle se rappelle uniquement d'un grand monsieur qui l'a soulevé, qui l'a déposé dans un grand chariot déjà bombé, rempli de gens. Et qu'on l'a emmené, qu'on l'a embarqué dans un ville-refuge des années plus tard, où les déportés ont retrouvé leur ville, elle est revenue pour chercher à voir est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on reconnaît qui elle est vraiment, cette petite fille qui est grandie dans une maison dans la ville de Königsberg. Personne ne la connaissait. Inge Krauss. De ne pas avoir un vis-à-vis, de ne pas avoir une idée point fixe, de ne pas savoir qui nous sommes, où nous allons, qui s'occupe de nous, qui est important pour nous, nous laisse sans identité. Le texte que nous avons lu en Colossiens 3, c'est que le Christ, il nous aime. Et c'est le Christ qui a délivré, nous a délivrés par son sang, par son amour, des royaumes des ténèbres pour venir vers lui dans son royaume. Donc nous avons une identité qui est précieuse aux yeux de Dieu et nous invite à vivre pleinement notre relation avec Dieu, mais aussi pleinement notre relation les uns avec les autres, dans une identité qui nous forge et qui nous forme et qui nous permet de grandir et de découvrir la bonté, la richesse de l'amour de Dieu et de son plan, et de lui ressembler à son image, à son caractère. Colossiens chapitre 3 nous dit de vivre, et le plan de Dieu, c'est que nous vivions ensemble, en communauté, avec les frères et sœurs et avec Dieu comme Père. C'est un défi dans nos temps modernes, où un quart de notre population vit seule, où on peut se distraire avec des écouteurs, s'enfermer dans sa voiture et ne pas croiser quelqu'un d'autre. Donc, vivre en communauté est un art, mais qui est précieux, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu pour être ensemble, en relation avec Dieu, et aussi en relation avec les frères et les sœurs. Comment faire? Premièrement, dans le texte que nous avons lu en Colossiens 3, où je vous invite à vous tourner, nous avons déjà beaucoup de richesses dans une relation avec Dieu qui a démarré des choses énormes, une transformation énorme dans notre vie. D'abord, il nous a choisis dans le verset 1. Il nous a choisis pour être son peuple. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu a commencé une œuvre dans votre vie. Dieu agit en vous, en nous. Nous ne sommes pas des gens en dehors ou oubliés, mais plutôt des gens chez qui Dieu il toque ou il nous attire vers lui pour nous appeler les siens. Une relation privilégiée avec le Dieu de l'univers, celui qui nous aime tant. Le verset nous dit aussi que nous sommes à choisir, saints et aimés. Choisis pour être purifiés, pas une vie qui va tend vers le bas, mais une vie qui grandit, et une vie sainte donc. Et nous sommes aussi un peuple aimé, aimé par le Christ. Je pense, maintes façons où Dieu nous a aimés, les maintes façons, même en semaine, de remercier, d'adorer, d'aimer ce Dieu à cause de sa bonté envers nous. Il nous manifeste son amour par des petits gestes, par les protections, par son pardon, par sa filiation avec nous. Nous sommes donc en relation, choisis, aimés, et ça bouscule, ça change tout. En relation, mais aussi en possession. La Bible dit que nous sommes morts à ce qui était ancien, ce qui nuisait à notre vie, ce qui sapait notre force pour vivre, et il nous purifie. Il nous donne au fond de nous-mêmes une vie sainte, sa présence, sa puissance pour vivre autrement, pas pour délabrer sa vie, dilapider, mais plutôt pour pouvoir aller vers ce Dieu, pour pouvoir avoir une force pour vivre. Et cette vie, donc, est en Christ, c'est lui qui nous la cache, et quand il revient et quand on le verra, notre vie sera pleinement révélée. Pour l'instant, nous vivons en partie cette vie, mais nous le verrons face à face. Et ce pourquoi nous nous efforçons de nous défaire de ce qui déplaît pour voir le Christ, nous le saurons pleinement quand nous serons en face avec lui. Nous serons notre récompense de le voir face à face, où nous reflèterons davantage sa gloire. Mais notre vie, donc, est en relation, notre vie est aussi en position avec le Christ. Et finalement, nous sommes en relation les uns avec les autres. Regardez le verset 11. « Puisque le Christ, Dieu lui-même, est devenu homme, il est mort pour nous, dans cette nouvelle humanité qu'il créait dans le Christ. Quand nous sommes dans le Christ avec lui, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre les circoncis, les incirconcis, les étrangers, les barbares, les esclaves, les hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout en tous. Pas de barrière de culture, de race, de langue, d'intelligence, de niveau social, parce que le Christ est tout. C'est lui que nous, qui nous a rachetés, c'est lui qui nous a unis, c'est lui qui a créé pour nous et en nous un peuple nouveau. Pour que les barrières ne soient plus, pour qu'on n'ait pas plus à se nous vanter du salaire, du quartier, de ses diplômes, de son origine. Parce que c'est le Christ qui a fait que nous sommes le plus important en lui et que nous le connaissons. Et c'est le Christ qui a fait de nous un peuple qui lui appartenons, et c'est lui qui prend la place, la première place, qui met au niveau, à tout, au même niveau, toute autre chose. Nous sommes donc devant le Christ, nous qui l'adorons, nous adorons le Christ. Et c'est lui donc qui prend la place, la première. L'objectif, c'est de créer une nouvelle humanité, un nouveau peuple pour lui-même. Et donc, d'être libéré avec le Christ qui nous aime, qui nous situe avec lui, qui nous donne tout ce qui est à lui, qui nous invite à être en relation avec le Dieu pour que nous vivions unis avec Dieu le Père, et aussi pour nous permettre d'être libérés, pour vivre unis les uns avec les autres, avec des personnes qui reflètent le Christ et qui sont créées à l'image de Christ, et qui sont une nouvelle humanité dans le Christ. Et pour le faire, il nous demande de nous dévêtir des anciens habits, des ardes, des vêtements qui ne nous conviennent plus, de la colère ou de l'animosité ou des méchancetés ou de l'indifférence, afin que Dieu nous revêtisse d'un habit neuf, beau, resplendissant. Et ça, c'est l'image de Jésus-Christ en nous. C'est lui-même. Il commence dans le verset 12. « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous. » Et nous allons regarder à ces qualités de ce nouveau peuple digne de Dieu et qui reflète Dieu. Revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Donc, revoir ces qualités. On commence par la bonté. Dieu est bon. Quelqu'un est venu vers Jésus, lui a dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et lui a demandé, « Mais pourquoi m'appelles-tu bon ?» Personne n'est bon, sauf Dieu. Mais Dieu veut que nous lui ressemblions. La Bible dit qu'il est bon envers les ingrats et les injustes. Il donne la pluie, la nourriture, le vêtement. Il aime. Et il nous appelle à lui ressembler, à faire du bien, à être bon, bien qu'au fond de nous-mêmes, cela demande une transformation. Parce que nos cœurs ne sont pas naturellement bons. Nos cœurs sont naturellement tortueux ou méchants, Jésus nous le dit, et nous avons cette lutte. Mais le fait que nous soyons en relation avec Dieu, qui est bon envers nous, c'est sa bonté qui fond notre dureté de cœur et qui nous permet à notre tour de refléter la bonté envers tous, qu'ils soient durs ou doux, de refléter cette bonté et encore d'ajouter la compassion. La compassion signifie littéralement le cœur. C'est le cœur de donner son cœur et de pouvoir le donner à d'autres personnes parce qu'on compatit, on ressent ce que l'autre ressent. Quand quelqu'un a une épreuve, on ressent et on lui donne son cœur pour le soutenir dans cette difficulté, afin que l'autre puisse être délivré et trouver la force, la grâce pour y passer, ou que Dieu le délivre. Et la compassion, donc, c'est de compatir, de pâtir avec, de souffrir ou de sentir avec, et de donner son cœur littéralement à l'autre et la bonté par Dieu. La bienveillance et l'humilité. Donc, l'humilité est une qualité qu'on peut dire qui est au fond de toutes les autres. Parce que l'humilité dit, j'ai besoin de l'autre. L'humilité dit, je ne vais pas voir que moi-même. Je vais voir aussi l'autre. Et ça, c'est le Christ, qui par excellence s'est défait de tous ses droits, de toute sa royauté pour descendre vers nous, pour devenir homme, pour devenir esclave, pour mourir condamné à la croix, pour obéir complètement à Dieu pour nous. Et il nous invite à le suivre, de prendre notre croix et de nous revêtir d'humilité. Alors ça, pour le faire, il faut se dévêtir de son orgueil, de son égoïsme, de ses maux, de ses intérêts, de son agenda perso, pour pouvoir suivre un Dieu et d'être prêt à considérer les intérêts d'autres personnes. Mais c'est là où se trouve un des plus grands secrets de la vie chrétienne. Peins-moi le bonheur. Peins-moi un oiseau. Mais dès qu'on ouvre la cage, il s'enfuit, le bonheur. On ne peut pas la laisser dans une cage, non plus sa propre vie. On l'ouvre. Celui qui garde sa vie la perdra. Celui qui donne, qui perd sa vie pour moi-même et pour l'Évangile, pour d'autres personnes, en servant et en aimant, il n'est pas renfermé en lui-même, dans sa rancune, dans ses intérêts personnels. Il s'ouvre, il se donne aux autres pour que d'autres bénéficient et pour que Dieu, parce que c'est Dieu qui nous aime, c'est Dieu en lui qui permet de donner et d'aimer. Et c'est cette vie qui est remplie pas de lui-même, pas des blessures, pas de l'encensure qui ne revient pas, mais plutôt de Dieu qui se donne à l'autre. Donc cette humilité est une richesse énorme. L'humilité, la douceur et la patience. Dieu est patient et il veut aussi que nous soyons revêtus de douceur, que la douceur soit connue de tous, Philippiens 4, verset 5. Poursuivez la douceur, 1 Timothée 6, 11. Même les ennemis doivent être repris avec douceur, 2 Timothée 2, 25. Et les chrétiens qui sont égarés ou tombés ou abattus peuvent être ramenés par la douceur, pas par la dureté, mais par la douceur d'esprit. La patience, donc la douceur, est utile. La patience aussi, Dieu est patient, pas parce qu'il ne sait pas quoi faire. Dieu est patient, parce qu'il laisse la place aux gens, à nous, de réfléchir, de répondre à sa bonté, à sa patience, à sa douceur envers nous. Il est patient pour nous laisser la place. Et il veut que nous soyons patients les uns envers les autres. Ce sont donc des qualités de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu donne la patience, l'Esprit de Dieu donne aussi la douceur pour permettre à Dieu d'agir. Et en tant que parent, en tant que chrétien ou frère, on apprend ce qui relève de Dieu et ce qui relève de nous. Et on peut frustrer Dieu et ses plans parce qu'on court trop vite. On veut changer l'autre, son conjoint, son enfant, le frère dans l'église. Mais Dieu nous demande d'aller avec douceur et patience pour permettre à Dieu lui-même d'agir, de lui parler, de guérir ses blessures et lui permettre d'être transformé petit à petit à l'image de Christ. Se supporter mutuellement quand les autres ne marchent pas au niveau de nos attentes, de nos normes, de lui faire grâce, de supporter, de permettre ce qu'encore Dieu agisse dans leur vie, avec le temps, et puis faites-vous grâce continuellement. Faites-vous grâce comme le Christ vous a fait grâce. Le mot, c'est aussi le mot pardonner. Ici, c'est la base. Si on va être en communauté, que ce soit en famille, que ce soit avec des amis, que ce soit avec le quartier, les collègues du travail, ou les frères et les sœurs, il va falloir le pardon. Parce que tôt ou tard, on va pas voir la marche, et on va glisser, et quelqu'un va tomber. Et c'est là où on sera là pour pardonner. Si on pardonne, on peut encore se prendre ensemble pour marcher, pour avancer. Le refus de pardonner détruit. Le refus de pardonner détruit émotionnellement parce que la rancune nous mange le cœur et l'âme. Le refus de pardonner détruit aussi physiquement parce que nos corps sont aussi... nous vivons dans ce corps et nous allons aussi subir des difficultés quand nous ne pardonnons pas. Le pardon aussi détruit nos relations les uns avec les autres et aussi avec Dieu, parce que Dieu nous dit que si on ne pardonne pas, lui, il ne pourrait pas être présent. Donc le manque de pardon, le pardon plutôt n'est pas facultatif, c'est obligatoire, c'est un commandement. Pardonnez-vous, faites-vous grâce, réciproquement, mutuellement, l'un et l'autre. Pourquoi ? De même que le Christ nous a pardonné. Dieu nous a pardonné infiniment plus que ce que nous devons pardonner aux autres. Quel que soit le mot, le pire qui puisse à jamais arriver, c'est nous qui avons toujours offensé Dieu, qui nous pardonne librement. Heureusement, il ne tient pas compte de mes fautes, de nos difficultés, de nos révoltes, de nos actes, de nos pensées, de nos rébellions. Au contraire, il pardonne pour qu'on puisse se relever, se remettre en marche, vivre avec lui. Et ses bontés se renouvellent de jour en jour. Et les nôtres, il nous appelle à être comme lui pour pardonner aussi. La résolution de conflits sont possibles seulement par le pardon. La paix personnelle et communautaire en dépend. Notre témoignage au monde et aux jeunes croyants en dépendent. Le pouvoir de Dieu dans nos vies y est démontré. C'est un élément essentiel pour la bataille spirituelle. Dieu est glorifié quand nous vivons en communauté, les uns les autres, avec les autres. Le fait de médire ou de calomnier, le fait de dire quelque chose que quelqu'un a fait de mauvais, qui nous a blessés contre quelqu'un, ou le fait de calomnier qui dit pas ce qui est vrai, mais ce qui est faux sur quelqu'un, démontre qu'on n'a pas pardonné. Et là, on a besoin, c'est l'opposé de l'humilité, de la douceur, de la bonté et du pardon. Et au-delà de tout, le verset 14, « Revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. » L'amour qui permet de penser, d'aimer, de se donner aux autres personnes. Nous grandissons avec les autres. Stendhal avait dit, on peut tout apprendre seul, sauf le caractère. Et si nous allons apprendre d'aimer, de nous aimer, c'est ensemble. De pardonner, d'être bon, c'est parce qu'il y a d'autres personnes en face. Le peintre et l'illustrateur Gustave Doré avaient perdu son passeport, il a dû voyager. Et quand il était confronté par le garde de la barrière, il a dit, je suis Gustave Doré. Il lui a dit, il y a beaucoup de personnes, monsieur, qui souhaitent passer et qui prétendent être quelqu'un qu'ils ne sont pas. Donc, il lui a tendu une feuille et un crayon et lui a demandé de dessiner les passants en face. Habilement et adroitement, il a dessiné les personnes en face, a montré à la garde et qui a laissé passer Monsieur Doré. Nos actes confirment notre identité. Ce que nous disons que nous sommes chrétiens, comme le Christ, c'est parce que nous lui ressemblons, parce que nous lui permettons de transformer nos cœurs à devenir, à lui plaire en tout. Et c'est un travail divin, mais c'est son travail. C'est un travail ambitieux pour transformer des personnes comme nous-mêmes, des êtres humains, frêles, rebelles même, à l'image de Christ. Mais c'est son travail et il le fera. Parce qu'il est Christ et parce qu'il est mort et ressuscité et il nous est appelé à mourir à cette ancienne vie et aussi à vivre avec lui dans le Christ, dans son pouvoir, à demeurer dans le Christ pour que lui-même, il puisse agir, transformer progressivement. Il connaît les douleurs, il connaît là où nous ne sommes pas aussi à la hauteur. Mais c'est lui qui veut et qui nous appelle vers le haut pour marcher et agir avec lui. Se revêtir de l'amour, quelqu'un a dit, ce n'est pas parce qu'on a au cœur, parfois on sent, parfois on fait simplement parce que Dieu nous le demande. Et puisque nous le faisons, c'est le sentiment et l'émotion qui suit. Et nous reconstruisons la relation à cause des actes que nous faisons et le sentiment ou l'émotion est là. Parce que nous obéissons. Si nous attendons que l'émotion arrive avant d'agir, on ne va pas arriver. Mais puisque nous agissons, Dieu, il sera présent. Il viendra. Et on peut se revêtir, donc. Il n'a pas dit ressentir. Il a dit revêtissez-vous. Agissez. Faites. Et Dieu, il sera là. Il fera la différence dans notre caractère. Comment y arriver ? Il dit finalement, le résultat, c'est la paix et la reconnaissance. Quand on met en pratique la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, de nous supporter mutuellement quand on n'arrive pas à la hauteur, quand on se fait grâce, on se pardonne, on se revêtit de l'amour, on agit par amour, la paix de Dieu est présente parmi nous et trouve sa place parmi nous. Et nous devenons reconnaissants, et je crois que c'est énorme, de ne pas voir que les attentes, mais de voir les déjà. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre en nous, en vous. Et de voir déjà que, puisque Dieu est à l'œuvre, oui, ok, il y a un chemin à faire. Mais il y a déjà un chemin que Dieu a fait, et le plus grand, c'est le Christ. Et nous sommes dans le Christ, donc c'est déjà bien parti en lui, et on peut être reconnaissant pour le Christ qui est tout en tous. Pourquoi nous agissons et par sa puissance. Comment y arriver? Il n'hésite pas à nous le dire. C'est un livre pratique, la Bible, où il dit au verset 16, que la parole de Christ demeure en vous. La parole de Dieu demeure en vous, dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire, pour vous avertir les uns les autres, pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Donc la parole parmi nous, et quand nous la lisons, quand nous la méditons, quand nous la mémorisons, quand nous la laissons agir en nous. Et je sais, et nous l'avons déjà dit d'ici, que ce n'est pas un automatisme. Le fait qu'on entend ne garantit pas qu'on la met en pratique. Mais quand on permet à Dieu et qu'on lutte avec Dieu, et qu'on confesse à Dieu et qu'on réclame à Dieu d'agir et lui permettre d'agir en nous par des aspects où nous savons que nous ne sommes pas doux toujours, où nous n'avons pas encore pardonné complètement ou achevé ce processus, peut-être c'est en cours, où nous n'avons pas vraiment pris le temps d'aimer. C'est là où Dieu, il veut agir, il veut nous transformer. Et quand on écoute Dieu et sa parole, il nous transforme. Et quand, dans sa richesse, cette parole habite parmi nous, elle nous transforme. Et c'est Dieu qui habite parmi nous. Elle lui laisse la place quand on laisse la place à sa parole, à Dieu. Richement, pour vous instruire mutuellement. Combien c'est une joie de pouvoir voir des personnes qui se retrouvent dans l'Église, pour pouvoir parler, pouvoir, comment ça va, pour pouvoir prier, pour pouvoir s'exhorter aussi un peu pour, tiens, je vois que peut-être que tu as un fardeau, ou comment est-ce que je peux aider ou servir, ou prier. Et ça, c'est de laisser la parole de Dieu aussi habite en nous, et de nous instruire parfois par nos actes, par nos gestes, et parfois aussi par nos paroles d'encouragement ou d'amour envers un frère ou une sœur. Et finalement, tout pour la gloire de Christ. Tout ce que nous faisons, c'est le Christ qui commence, et c'est pour le Christ que nous allons. Tout est pour le Christ. Est-ce que ma vie glorifie le Christ? Est-ce que notre vie, est-ce que votre vie glorifie le Christ? Là où nous ne glorifions pas le Christ, comment pouvons-nous changer? Comment est-ce que le Christ lui-même peut-il nous transformer, nous changer? Et c'est petit à petit, c'est une transformation continue, mais merveilleuse, qui nous rend à l'image de Christ. Il fera ensemble les uns avec les autres, quand la parole de Dieu habite en nous, parmi nous, quand nous laissons la place individuellement et nous luttons. Ce n'est pas un automatisme. C.S. Lewis a dit, le pardon, c'est une très très bonne idée. Jusque ce qu'il faut la mettre en pratique. C'est vrai. C'est un appel vers le haut. Le challenge, le défi est énorme. Mais c'est le Christ qui appelle et qui commence et par sa parole veut agir en nous, et vous laisse, nous laisse aussi agir. Réciproquement. Instruisez-vous. Encouragez-vous. C'est l'avantage d'être ensemble. Donc ne vous privez pas des occasions de vous retrouver pour être ensemble, pour discuter, pour parler, pour vous retrouver pour prier, pour vous retrouver pour chanter, pour parler et partager. Cette nouvelle humanité, le Christ, est déjà monté au ciel où il intercède pour nous. Il nous attend et notre vie, un jour, sera révélée complètement dans le Christ auprès du Père. En attendant, il travaille. Et quelle joie qu'il travaille. Mais les qualités de la douceur et de la bonté, de l'humilité, du pardon mutuel, de l'amour, sont des qualités énormes et des plus riches et les plus belles qui soient. Et c'est Dieu lui-même qui agit. Permettons-lui d'agir.